C'est une discipline bien développée en Suisse, admise comme efficace par une partie importante de la population. Vous explorez l'ostéopathie, Bastien Confineau.
Ah oui, la Suisse compte 1200 ostéopathes, dont 60% en Suisse romande, donc c'est très bien implanté en Suisse romande. On estime à 1 500 000 le nombre de consultations par année. C'est la médecine complémentaire la plus utilisée en Suisse. Elle est même présente dans certains hôpitaux cantonaux, je pense au CHUV par exemple, pour les femmes enceintes. Et pourtant, les études scientifiques sur l'ostéopathie sont assez rares. À titre d'exemple, en 2012, l'INSERM en France a recensé 64 études sur l'ostéopathie contre 200 sur la chiropraxie et plus de 600 sur l'acupuncture. Ouais. Donc en fait, il y en a relativement peu. Alors on va se pencher sur les mécanismes de l'ostéopathie, comprendre de quoi il s'agit dans une première partie et puis analyser la pertinence scientifique de la discipline sous forme de débat dans une deuxième partie.
Et pour commencer, donc, nous accueillons Sébastien Bird. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ostéopathe, vous êtes président de la Fédération Suisse des Ostéopathes. On a tous quelques idées de ce qu'est l'ostéopathie, une thérapie manuelle, mais si on veut aller un peu plus loin, quels sont les principes de base de l'ostéopathie?
Je pense qu'il faut comprendre au début, c'est que l'ostéopathie est une discipline, une thérapie manuelle qui va s'intéresser aux troubles fonctionnels principalement.
Ça veut dire quoi, les troubles fonctionnels?
Les troubles fonctionnels sont peut-être les troubles où il n'y a pas de pathologie associée, on est plutôt où la fonction n'est plus conservée. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien, mais quelque chose qui est encore complètement dans son état.
Voilà, c'est pas un cancer, par exemple.
Exactement.
Qui serait un truc associé, qui vient embêter un organe, mais c'est l'organe lui-même qui va bien, et puis on essaie de
schématiquement, tout à fait.
Schématiquement,
voilà, c'est
autour de lui.
Un petit peu ça. Ouais.
Et alors, justement, on peut soigner quoi concrètement avec l'ostéopathie?
Les indications sont assez larges. Principalement, on pense bien sûr aux troubles fonctionnels du dos, on peut dire les troubles fonctionnels qui sont plutôt articulaires. Le mot dos, c'est un peu la première motif de consultation qu'on voit dans nos cabinets. De plus en plus, ça s'élargit un petit peu et on va aussi avoir des personnes qui vont nous consulter pour des problèmes tels que des autres troubles fonctionnels, digestifs ou même des céphalées, des maux de tête, des choses comme ça. Mais aussi de plus en plus certaines catégories de la population comme les femmes enceintes pour accompagner les différents troubles fonctionnels de la grossesse ou même les nouveau-nés, les nourrissons pour l'ensemble des troubles fonctionnels chez les nourrissons qui sont comme les régurgitations, les pleurs, les choses comme ça quoi.
On dit aussi quand les bébés maintenant leur demandent de dormir sur le dos et puis ils ont le crâne plat.
Absolument.
Vous remettez le crâne un peu rond.
Alors ce qu'on va faire, la plagiocéphalie qui peut être entraînée si le bébé tourne la tête que d'un côté. En fait, ça c'est une motif de consultation qui est de plus en plus fréquent. Et nous on va agir vraiment sur le début, c'est-à-dire pour essayer d'éviter qu'ils vont toujours se trouver sur le même côté. Donc regardez s'il y a des tensions, s'il y a des torticolis, des choses comme ça, pour éviter qu'ils se trouvent toujours la tête tournée d'un côté et qui va déformer le crâne.
Alors tout le monde n'a pas été voir un ostéopathe dans sa vie. Comment ça se passe pratiquement? Qu'est-ce que vous faites comme manipulation? Donc que les mains, hein?
Oui, alors ça c'est réduire. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas réduire
pas que les mains.
La consultation ostéopathique au traitement ostéopathique. C'est un peu, il faut avoir une plus grande vie d'ensemble. Je pense que c'est toute la consultation qui va agir sur le patient, le fait de prendre en charge sa douleur, le fait de l'écouter, le fait de l'accompagner, c'est aussi une partie qui est très importante pour la réussite d'un traitement. Mais si on veut parler des techniques ostéopathiques proprement dites, c'est des techniques effectivement manuelles qui vont agir sur plusieurs secteurs. On parle des techniques articulaires qui peuvent être directes, c'est les techniques qui font un petit peu craquer, mais aussi les techniques indirectes qui sont plus douces pour mobiliser une articulation. On a les techniques viscérales qui vont plutôt s'occuper de la sphère viscérale. Et puis les techniques crâniennes dont on a un petit peu parlé pour les nouveau-nés ou les nourrissons.
Mais c'est des massages, des pressions que...
Alors on parle de manipulation. Donc quand on parle de manipulation, il y aura une interaction en fait, entre le thérapeute qui fait sa manipulation et le patient qui va réagir à cette manipulation. Donc effectivement, nous on ne sait pas encore exactement comment... agit cette relation-là. On pense que c'est quand même une réaction qui est assez complexe, qui va agir sur les phénomènes de régulation du corps humain.
La différence avec la chiropraxie, par exemple, j'ai comme image qu'elle nous fait craquer aussi, donc la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie.
Alors, les deux vont utiliser aussi les techniques manuelles, effectivement, les techniques de manipulation manuelle. Après, je pense qu'il y a des différences aussi de concept. Il y a une façon de voir ou de comprendre le corps humain qui est aussi un petit peu différent. Après, je pense que ce qui est proposé aux ostéopathes, il y a ce qu'on appelle, décrit tout à l'heure, les techniques ostéopathiques viscérales et techniques ostéopathiques crâniennes qui sont moins utilisées par les chiropraticiens, mais ça change aussi, hein, je pense, de plus en plus.
Et par rapport à la physiothérapie ?
La physiothérapie, c'est plutôt, à ce que je connais, c'est des techniques de rééducation. Elle est aussi, par rapport à l'ostéopathie, remboursée par la LAMAL, donc, mais c'est bon sur prescription médicale. Donc l'ostéopathe est dans les assurances complémentaires et par contre n'a pas besoin de passer par le médecin pour avoir une ordonnance.
Est-ce qu'on connaît les mécanismes qui permettent de soigner avec l'ostéopathie ?
Ah justement, on ne sait pas exactement quel mécanisme, quelle part est de la manipulation proprement dit et quelle part aussi est de la prise en charge du patient. Ça, c'est encore le côté qui est peut-être à développer pour le futur. Mais on sait justement qu'on peut parler un peu de réactions un peu plus complexes et qui va faire que le corps va se réguler. Les systèmes de régulation du corps vont être un petit peu corrigés ou stimulés et faire une réponse positive pour le patient. Ça peut être les systèmes du système nerveux central, les systèmes du système nerveux parasympathique, sympathique, des choses comme ça, ou même du système vasculaire. Mais on ne le sait pas vraiment encore. Ça, c'est encore une partie qui est un petit peu mystérieuse.
Y a-t-il des dangers à pratiquer l'ostéopathie ? Vous pourriez faire une fausse manipulation qui pourrait aggraver les symptômes du patient ou au contraire, vous estimez que les risques sont assez faibles ?
Moi, je pense qu'il y a plusieurs sortes de dangers qui existent dans les traitements manuels. Ça, c'est pour l'ensemble des traitements manuels, mais aussi pour l'ostéopathie. Il y a des dangers qui peuvent être vraiment diminuer si la personne est correctement formée. Ce que je veux dire par là, c'est que on pense toujours, comme vous dites, à des dangers comme la manipulation, des choses comme ça. Moi, je pense personnellement, le premier danger, c'est en fait de rater un diagnostic. C'est déjà de quelqu'un qui vient nous voir qui est pas pour nous. Donc, c'est une personne qu'on devrait reconnaître et envoyer plus loin. Ça, c'est le premier danger. Maintenant, l'autre danger qui est effectivement la manipulation elle-même, ça va pas mal dépendre de l'état du patient et de quelle région aussi on va manipuler. Donc aussi, par une personne qui est correctement formée, elle pourra mieux reconnaître, de se dire, à ce niveau-là, je touche pas, j'ai cette personne-là, vu son âge, vu son état, on ne peut pas faire certaines manipulations, on va en faire d'autres. Donc ça, c'est le deuxième sort de danger. Après, il reste aussi, bien sûr, le danger de la dépendance du thérapeute, mais que ça, on peut trouver partout, où effectivement, on ne doit pas rendre nos patients dépendants des techniques ostéopathiques. C'est-à-dire, il faut toujours que le bénéfice de la relation thérapeute-patient soit pour le patient et pas pour le thérapeute.
Vous l'avez dit tout à l'heure, les mécanismes ne sont pas encore très très bien connus. Est-ce que ça veut dire que c'est une thérapie qui est basée uniquement sur une démarche empirique, donc qui s'est construite sur l'observation, ou est-ce qu'on peut dire que c'est scientifique et donc construit sur l'expérimentation ?
Moi, je pense que c'est la même chose pour beaucoup, voire l'ensemble des thérapies médicales. Elles ont d'abord été créées par une notion d'observation empirique, de voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Maintenant, je pense que l'aspect scientifique est très important pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi peut-être mieux expliquer. C'est surtout ça qui est le plus important. Je pense que l'aspect, ce que peut nous apporter les études scientifiques, c'est de peut-être mieux expliquer qu'est-ce qu'on fait. Et c'est la chose la plus importante. On ne peut pas tout expliquer, c'est ça qui est difficile. On ne peut pas se limiter à simplement faire ce qui est prouvé. Autrement, je pense qu'on va limiter un petit peu la réussite d'un traitement. Le corps humain étant ce qu'il est, d'une certaine complexité, ou l'être humain étant relativement complexe, si on se limite uniquement aux choses qui sont prouvées, on réduit quand même le champ d'action et on risque de ne pas répondre à certains troubles. Notamment dans les troubles fonctionnels. Hein. Il faut voir qu'on n'est pas dans des lésions qui sont toujours la même chose. On est dans un fonctionnement qui est propre à chacun. Donc il est important de savoir qu'à ce niveau-là, on n'est plus dans la science basique.
Sébastien Bern, donc ostéopathe, président de la Fédération suisse des ostéopathes. Merci pour cette présentation de la discipline que vous exercez au quotidien. Maintenant, on va questionner la pertinence. On avait envie de le faire dans CQFD. Il nous a rejoint dans le studio Pierre-Yves Rodondi. Tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaborateur au groupe de recherche et d'enseignement sur les médecines complémentaires du CHUV. Et par téléphone, nous avons Albin Guillot. Bonjour Albin Guillot. Vous êtes, vous, physiothérapeute à l'hôpital de Chambéry en France, donc membre du collectif Cortex, c'est le collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et Science, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, donc ça veut dire que vous épluchez, vous le faites, d'ailleurs Pierre-Yves Rodondi aussi, les publications scientifiques pour essayer de vous faire une opinion sur l'ostéopathie notamment. Alors avant tout, comment évaluer l'efficacité de l'ostéopathie, Albin Guillot ?
Alors déjà, ce qu'il faut bien distinguer, c'est la question des mécanismes qui a été abordée finalement dans la première partie, le comment ça marche, du est-ce que ça marche. En fait, c'est vraiment deux questions scientifiques qui sont différentes. Et finalement, on peut mettre en évidence qu'une technique fonctionne sans forcément savoir qu'elle fonctionne sur plan, comment elle fonctionne sur plan scientifique. Donc sur plan scientifique, ce qui va d'abord nous intéresser, c'est est-ce qu'elle met en évidence, est-ce qu'il y a un effet spécifique de la pratique qu'on peut mettre en évidence. Et finalement, la procédure, en principe, elle n'est pas différente de la procédure qu'on va mettre en place pour un médicament classique. Le seul problème qu'on va rencontrer, c'est le problème du double aveugle, en fait, dont on reparlera un petit peu après. Mais finalement, en principe, on va prendre deux groupes, un groupe à qui on va délivrer le traitement qu'on veut tester, donc l'enchaînement de techniques ou la technique qu'on veut tester, et un groupe à qui on va donner un traitement placebo, une technique placebo. Et c'est là que ça devient compliqué, en fait. Mais voilà, en principe, ça sera la même démarche.
Alors justement, c'est compliqué de donner un placebo en ostéopathie. Pierre-Yves Rodondi, est-ce qu'il y a d'autres solutions que le placebo pour tester l'efficacité?
Alors tout d'abord, le placebo est possible en ostéopathie, à savoir qu'il faut utiliser une fausse ostéopathie, mais ça limite un certain nombre de capacités de la recherche, puisqu'au fond, le patient peut réaliser par exemple que c'est un placebo. Mais effectivement, il existe d'autres techniques de recherche, et je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est toutes ces techniques, notamment de comparative effectiveness research, où on peut comparer deux approches différentes. On pourrait comparer par exemple dans des mots d'eau l'approche avec des médicaments et puis de l'approche par ostéopathie, ce qui correspond tout à fait, qui est tout à fait acceptable d'un point de vue scientifique.
Alors, même si c'est donc pas évident de faire de l'expérimentation en ostéopathie, est-ce que ça a quand même été fait? Est-ce qu'on a des études qui nous montrent effectivement une efficacité ou pas d'efficacité?
Alors effectivement, il y a des études qui montrent l'efficacité de l'ostéopathie, que ce soit justement soit comparé avec l'ostéopathie placebo, soit comparé avec d'autres approches. Par exemple, il y a une étude qui a comparé l'ostéopathie avec la physiothérapie, qui montre que l'ostéopathie est tout aussi efficace que la physiothérapie dans des maux de dos, par exemple.
Qu'en dit le physiothérapeute Albin Guillot?
L'étude, nous donc on est en quête de ces études qui sur l'ostéopathie, donc peut-être que c'est une référence qui m'aurait échappé, donc j'aimerais l'avoir sous les yeux. Enfin, il y en a beaucoup d'études. Elles sont pas si rares, dans la première partie, c'était de dire qu'elles étaient rares. Il y en a quand même un certain nombre. Il y a eu des revues systématiques qui ont été faites, des méta-analyses. En France, il y a un rapport de l'INSERM qui a été fait, qui a évalué un certain nombre d'études. Et le fait que ce soit aujourd'hui qu'on reconnaisse qu'il y a une efficacité spécifique, ça c'est quelque chose qui est pas à la vue des publications que j'ai eues sous les yeux, et c'est les conclusions du rapport de l'INSERM, c'est que soit on n'a pas de données, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'indications, Monsieur Bird l'a dit au départ, il y a plein d'indications. Pour ces différentes indications, soit on n'a pas de données, soit les données qu'on a sont isolées et présentent de faible qualité méthodologique, soit on a effectivement un petit... Alors par exemple, sur le cas des dorsalgies, les lombalgies, les douleurs du dos, on a des effets qui sont montrés, mais qui souvent ne sont pas supérieurs à la physiothérapie ou à d'autres traitements. Et étant donné les problèmes méthodologiques liés au double aveugle, on peut rester sceptique quant à l'efficacité spécifique quand même des techniques ostéopathiques. Mais c'est pas spécifique à l'ostéopathie. On retrouve les problématiques sur les thérapies manuelles du dos en général, en fait.
D'accord. Donc vous êtes moins enthousiaste d'une certaine manière que Pierre-Yves Rodondi, Albin Guillot. Pierre-Yves Rodondi, vous vouliez rebondir?
Oui, je voulais rebondir parce que mon métier, c'est de lire les études avec beaucoup d'esprit scientifique. Et si on prend les méta-analyses sur les maux de dos et l'ostéopathie...
Non, juste méta-analyse, c'est une analyse de toutes les analyses, d'un certain nombre d'analyses, enfin d'études qui ont été faites individuellement. On les met toutes ensemble pour essayer de sortir un résultat.
Oui, exactement. C'est important de le préciser. Parce que si on prend le rapport de l'INSERM qui dit 64 études, au fait, c'est un choix de 64 études. Bien sûr qu'il y a bien plus d'études sur l'ostéopathie que 64. Mais si on prend maintenant on fait d'abord une revue systématique, on va chercher toutes les études sur un sujet, et puis ensuite on va faire une méta-analyse, on va vraiment synthétiser l'ensemble. Et on avait une première méta-analyse qui était négative en 2001 sur l'ostéopathie, mais en 2005,
négative, ça veut dire qu'elle
montrait qu'il n'y avait pas d'effet de l'ostéopathie. Mais en 2005, une nouvelle étude montrait un effet bénéfique de l'ostéopathie. Alors on peut douter bien sûr de la méthodologie, mais on se retrouve quand même avec une méta-analyse qui est quand même, au niveau scientifique, une des techniques les plus strictes par rapport à l'efficacité d'une thérapie.
Ça veut dire qu'en 4 ans, entre 2001 et 2005, t'as coup, paf, ça change, quoi. L'ostéopathie, tout d'abord, ça marche pas, puis 4 ans plus tard, ça marche. C'est incroyable, ça.
Alors, c'est probablement pas ça. C'est qu'au fond, justement, en recherche, il y a un problème de méthodologie. C'est qu'on recherche parfois seulement certains articles, parfois seulement certains autres. Il y a des manières d'analyser les études. Si on prend, par exemple, la revue Cochrane, qui est encore plus exigeante en termes scientifiques, elle dit que l'ostéopathie, encore aujourd'hui, n'est pas efficace. Donc, c'est toujours la question de savoir jusqu'à quel niveau on demande l'efficacité d'une thérapie. Mais par analogie, hein, on fait des infiltrations pour les maux de dos aux patients dans le monde entier régulièrement. Et si on prend la revue Cochrane, elle est négative. Donc on devrait interdire les infiltrations à tous les patients qui ont des maux de dos, ce qui n'est heureusement pas le cas parce qu'il y a de nombreuses études positives sur ce sujet-là.
Mais alors, Albin Guillaume, comment est-ce qu'on s'en sort finalement? On a des méta-analyses qui nous disent oui, d'autres qui nous disent non. En tant que patient, voilà, moi j'aimerais savoir si ça vaut la peine d'aller me faire soigner par un ostéopathe ou s'il n'y a pas d'efficacité. Comment est-ce que je peux faire mon choix?
Ouais, c'est pas simple, d'autant plus que là, en termes de méta-analyse, il y en a une très récente qui a été publiée dans la revue Spine, qui est la revue de référence sur le rachis au niveau international, par un chiropracticien qui s'appelle Jean-Michel Menck. Et donc elle est assez large, c'est-à-dire qu'il a élargi les critères d'inclusion à toutes les thérapies manuelles qui concernent le rachis pour les lombalgies. Donc ça va être, il y a les ostéopathes, il y a les chiropracticiens, les physiothérapeutes, les médecins qui font des pratiques manuelles, et il tire des conclusions qui sont assez impressionnantes, c'est-à-dire que en fait, on a l'efficacité mise en évidence, elle existe, mais elle est petite et inférieure à des exercices supervisés. Ça, c'est la première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est que ça fait 40 ans en fait qu'on a des données, qui sont donc c'est ce que disait Monsieur Romondi juste avant, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, et finalement, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Et aujourd'hui, ce que pointe le rédacteur de cette méta-analyse, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on fait des données, qu'on a des résultats incertains, et ces résultats, ils sont pas très très importants, pas très impressionnants. Donc ça pose la question de est-ce que finalement les effets qu'on constate, est-ce qu'ils sont liés à la prise en charge spécifiquement, ou est-ce qu'ils sont liés, par exemple, à l'évolution naturelle d'un problème? Parce qu'on sait, par exemple, qu'un trouble fonctionnel tel qu'une lombalgie, une douleur de dos, évolue spontanément avec le temps, de manière majoritaire, de manière favorable en fait. Donc voilà, à un moment donné, est-ce que c'est le traitement ou est-ce que c'est simplement l'évolution naturelle? Et ça aujourd'hui, c'est vraiment vraiment pas clair, après 40 ans de données, c'est pas clair au niveau des données scientifiques, quoi. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Maintenant, sur le plan, le patient, quoi leur recommander, quoi ne pas leur recommander, nous, notre démarche au Cortex, hein, c'est évidemment, elle n'est pas du tout prescriptive, c'est simplement d'informer au plus clair. Mmh. Et aujourd'hui, au plus clair, par rapport aux données scientifiques qu'on a dans les mains, on est en doute, quoi. On est en doute par rapport à une efficacité spécifique. Maintenant, les gens, une fois ça su, est-ce qu'ils continuent à y aller, est-ce qu'ils continuent pas à y aller, le choix leur appartient. Mmh. Voilà.
C'est vrai qu'on, finalement, Pierre-Yves Redondi, on pourrait se dire, je vais chez l'ostéopathe, j'en ressors, j'ai l'impression d'aller mieux, mais c'est peut-être simplement un effet placebo, parce qu'il y a la prise en charge, on m'écoute, on me manipule un petit peu, et puis ça va mieux, ça peut être simplement du placebo.
Alors, le fait qu'un patient aille chez un praticien puis qu'il se sente mieux après n'a aucune validité scientifique, à part une modalité d'étude qu'on appelle N égale 1, où le patient va suivre toute une série de traitements, puis on regarde si à la suite de chacun des traitements, il a une amélioration plus significative qu'un autre. Mais effectivement, cet aspect-là n'est pas fondamental. Par contre, en termes scientifiques, par contre, en termes de remboursement, en termes d'offres de soins, on doit avoir des données scientifiques, et c'est pour ça qu'il faut y répondre. Il faut vraiment insister sur le fait qu'il n'y a largement pas assez d'études, notamment dans le domaine de l'ostéopathie. Et je suis content que la reconnaissance en Suisse de l'ostéopathie permette d'augmenter le nombre d'études, parce qu'on ne peut vraiment pas clairement encore répondre à cette question-là aujourd'hui.
De placebo ou pas placebo. Albin Guillot, est-ce que le fait de toucher le patient, on parlait d'aller chez un médecin, c'est déjà quelque chose, mais le fait de toucher le patient renforcerait l'effet placebo?
Alors c'est probable dans la mesure, alors ce qu'il faut se représenter, c'est que dans un contexte de soins, on a dans la relation praticien-patient, on a une attente d'un comportement qui est que le patient aille mieux, et par extension, c'est que le patient à la fin de la séance dise au thérapeute, oui je vais mieux, ça va mieux. Donc partant de ce principe-là, quand on s'intéresse aux données psychosociales qu'on a sur le toucher, qui sont étudiées depuis les années 80, la première expérience, elle est de 1985 par Goldman et collaborateurs. En fait, ils ont testé l'efficacité du toucher en termes de techniques d'influence pour obtenir un comportement. Mmh. Et je vais essayer de faire assez rapide. En fait, ils ont fait une expérience qui s'est déroulée en deux temps avec des étudiants dans une université. En fait, dans un premier temps, ils allaient interpeller, il y avait un expérimentateur qui allait interpeller les étudiants et qui leur demandait où est-ce qu'ils pouvaient trouver le bâtiment des sciences. Certains étudiants allaient les toucher, les effleurer simplement, et à d'autres, ils n'allaient pas les toucher. Deuxième temps de l'expérimentation, un deuxième expérimentateur rentre en scène, il ne sait pas qui a été touché, qui n'a pas été touché dans le premier temps de l'expérience, et donc il va aller leur demander s'ils accepteraient de participer à une permanence téléphonique de 2 heures auprès d'enfants handicapés bénévolement, donc un comportement pour des étudiants qui est très coûteux. Et donc on regarde finalement, parmi ceux qui ont été touchés, parmi ceux qui n'ont pas été touchés, lesquels acceptent finalement de réaliser ce comportement. On a 5% dans le groupe des gens qui n'ont pas été touchés, et on a 40% dans le groupe des gens qui ont été touchés. Donc c'est un résultat qui a été reproduit avec différents protocoles expérimentaux. Donc là, on a vraiment un contexte où on a simplement un effleurage, et en plus sur deux contextes qui sont complètement différents. Donc on peut s'imaginer que dans l'attente d'un comportement qui est que le patient dise « oui, je vais mieux », un praticien qui va toucher son patient pendant 30 à 40 minutes va avoir une influence. Il y a une relation comme ça d'influence qui se met en place où le toucher a une part, à mon avis, considérable.
Donc on pourrait tous être des ostéopathes alors finalement, parce qu'il suffit d'accueillir quelqu'un, on le touche pendant une demi-heure et puis il va mieux derrière simplement parce qu'il y a eu ce toucher.
C'est une question, c'est-à-dire ça a été déjà pointé par les différents intervenants, c'est quelle est la part dans le finalement « oui, je vais mieux » que relate le patient, quelle est la part entre ce qui est spécifique à la technique ostéopathique et quelle est la part entre ce qui relève des effets contextuels, de l'évolution naturelle. Et c'est ça que pointe Menk dans sa méta-analyse, c'est que par exemple pour les lombalgies aiguës, sa conclusion, c'est que l'effet qui est constaté est dominé par les effets contextuels et par l'évolution naturelle. Donc, par exemple, si on s'appuie sur cette étude-là récente, on serait tenté de dire que pour les lombalgies aiguës, il n'y a pas d'efficacité spécifique de l'ostéopathie, mais pas que des thérapies manuelles en général, qu'elles soient faites par des chiros, des physiothérapeutes, etc.
Pierre-Yves Rondondi.
Oui, cette question de l'effet spécifique, effectivement, reste importante, mais je tiens quand même à citer cette étude de 2014 où il y avait un groupe qui recevait de l'ostéopathie et l'autre qui recevait de la fausse ostéopathie, et dans les deux cas, les patients étaient touchés, et on a vraiment une amélioration pour le groupe qui reçoit de l'ostéopathie par rapport à l'autre qui est aussi touché. Mais c'est pour ça que cette question-là de l'effet spécifique, de l'effet placebo, elle est importante, mais c'est tellement important de trouver quelles sont les meilleures approches qu'on peut offrir aux patients en termes de soins. Et il y a aussi un autre aspect qui nous intéresse beaucoup au CHUV, c'est la question du coût-efficacité. Et il y a une étude qui est sortie en 2012 dans le BMJ, qui est quand même un grand journal de médecine. British Medical Journal, qui montre que l'ostéopathie fait partie des thérapies qui sont coût-efficaces pour les maux de dos. Et ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on a un système de soins qui coûte très cher. Et si on a une thérapie qui montre le même effet qu'une autre avec un effet en termes de coût qui est réduit, je crois qu'on se doit d'y réfléchir et de pouvoir l'offrir à nos patients.
Albin Guillot, est-ce qu'on sait pourquoi l'ostéopathie a autant de succès alors que, on l'a entendu, il y a quand même encore des doutes sur la validité scientifique de cette pratique?
Je pense que c'est une question qui n'est pas simple dans la mesure où il y a sûrement plein de déterminants qui rentrent en jeu. C'est une question qui est de nature presque sociologique et historique. On peut citer Raphaël Hammer à Suisse, qui est un sociologue qui a bossé sur les médecines complémentaires, médecines alternatives, et qui a essayé justement de voir dans la population suisse, c'était sur le canton de Genève, les représentations des gens en fait sur les médecines alternatives, et puis finalement qu'est-ce qu'ils faisaient qu'à un moment donné, pour tel ou tel problème, ils allaient plutôt s'orienter vers telle pratique plutôt qu'une autre. Alors c'était pas spécifique évidemment à l'ostéopathie, mais un point qui m'avait intéressé, c'est qu'il faisait la distinction entre les médecines, alors lui il disait les médecines alternatives, ostéopathie, acupuncture, homéopathie, etc., et les médecines plutôt populaires, par exemple les coupeurs de feu, les rebouteux, et en fait, ce qu'il a mis en évidence, c'est que le rapport à ces pratiques n'est pas le même. C'est-à-dire que ce qui va conférer finalement un certain crédit, par exemple à l'ostéopathie, à l'acupuncture, à l'homéopathie, c'est qu'il y a quand même une formation, il y a des études, il y a un raisonnement. Et du coup, les gens avaient tendance à comparer du coup à la médecine moderne, ces pratiques-là. Et du coup, je pense que l'ostéopathie, mais c'est vraiment, je pense, c'est-à-dire que c'est vraiment une question qui mériterait d'être investiguée sociologiquement, qu'elle réunit bien finalement l'optimisation de facteurs non spécifiques. Peut-être qu'il y a une efficacité spécifique aussi, mais ça aujourd'hui, je suis pas en mesure de le dire. Qu'elle réunit bien les effets non spécifiques et en même temps cette crédibilité, cette cohérence en fait. C'est-à-dire que quand on écoute le raisonnement sous-jacent à la pratique ostéopathique, on a envie de se dire pourquoi pas, effectivement, c'est cohérent, ça paraît logique. Voilà un petit peu en résumé.
Voilà, et ben on va s'arrêter là d'ailleurs pour ce sujet sur l'ostéopathie en question. Ça pose des questions, c'est intéressant. Il y a j'imagine une partie des réponses que vous avez peut-être chacune et chacun déjà trouvées par conviction. Et puis il y a la science évidemment qui doit se pencher aussi sur ce genre de pratique et qui essaie d'avancer petit à petit dans nos connaissances et dans la crédibilité qu'on peut donner à l'ostéopathie. Merci beaucoup à nos trois intervenants. Sébastien Bird, ostéopathe président de la Fédération suisse des ostéopathes. Albin Guillot, qu'on entendait à l'instant au téléphone, physiothérapeute à l'hôpital de Chambéry. Et puis Pierre-Yves Rodandy, collaborateur au groupe de recherche et d'enseignement sur les médecines complémentaires du CHUV, dossier proposé pour CQFD par Bastien Confino.